Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serov.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose que nous nous promenions à la fois à Montpellier et du côté de la nouvelle photographie européenne. Quel est le lien entre l'un et l'autre? C'est l'édition 2026 des Boutographies, les rencontres photographiques de Montpellier. Pour nous montrer le chemin, j'ai invité Christian Makota, directeur artistique des photographies. Merci, Christian Makota, de venir au micro de Divergence. Avec Peter Vasse, le président de Grain d'Image, l'association organisatrice, et avec Arnaud Laroche, son directeur, vous êtes un des piliers des photographies. Moi, je dis pas tout à fait là au début, mais à peine les plâtres étaient-ils essuyés. Donc un des passionnés donc de photos, pour la plupart du quartier boutonné, d'où Boutographie, qui ont lancé ce rendez-vous il y a 25 ans. Pouvez-vous rappeler les débuts d'une manifestation qui s'est professionnalisée et a pris depuis une ampleur dont vous allez nous parler?
Oui, les débuts, c'est ceux d'une initiative de quartier. Hein. L'axe de la rue Boutonnet, la photographe, qui était Fanny Dombrecoste, qu'on connaît bien à Montpellier, qui était comme quoi la photographie peut mener à tout. Et c'était au départ quelque chose de très quartier, hein, avec des expos chez les particuliers, des petits concerts à droite à gauche, des expos dans le pressing, à l'Institut des Sourds-Muets. Et puis, petit à petit, les candidatures ont afflué et puis s'est avéré que le pavillon populaire était prêt à nous faire un peu de place. Ça, c'était en 2007.
Donc ça a été décisif pour le coup. Ça
a été un palier essentiel, hein, en termes de visibilité, de qualité des espaces surtout, puisque c'est un lieu quand même dédié à la photo, ce qui n'est pas si fréquent. Et puis ça a coïncidé aussi avec le réseautage par Internet qui a permis de donner de la visibilité européenne notamment. Voilà.
Et puis donc, une professionnalisation qui n'a pas, pour le coup, écarté un certain nombre de bénévoles qui sont très actifs dans la préparation et l'organisation des rencontres.
Oui, c'est peut-être une des caractéristiques de ce festival, d'être encore aujourd'hui à 90% tenu par des bénévoles. Et c'est ce qui lui donne à la fois une énergie et peut-être aussi une capacité à résister aux difficultés, puisque un certain nombre de nos collègues de festival de la région en Occitanie ont fermé boutique, peut-être parce que justement les charges type salarié.
Je parle notamment à Image Singulière à 7, dont on avait raconté le repli en Cévennes l'an dernier.
Mais aussi Manifesto à Toulouse et d'autres lieux qui ont eu des difficultés. Voilà. Donc nous, on continue à se battre avec des forces bénévoles et c'est aussi ce qui nous sauve.
Voilà, ce qu'on dit maintenant, un écosystème qui a fait ses preuves. Alors l'an dernier, je vous avais demandé, comme je le fais habituellement, de nous dire à quel lieu de Montpellier vous êtes particulièrement attaché. Alors cette fois, pour changer, je vous propose que nous disiez quels sont les lieux des boutographies, outre le pavillon populaire que nous regardons de plus près, et pour nous dire quels sont les expos qu'on peut voir, et en deux mots, où est-ce, je préciserai, chemin faisant, les adresses ou précisions utiles. Alors peut-être Maison de Heidelberg, donc que voit-on à la Maison de Heidelberg, dont je rappelle qu'elle est 4 rue des Trésoreries de la Bourse. Teresa Wiesmann.
Oui. Alors pour la Maison d'Heidelberg, il va falloir patienter encore un petit peu. Ouvrira le 18 avril.
D'accord.
Le 18 mai. Et avec donc cette intéressante expo de Teresa Wiesmann qui aborde les questions de la pomme de terre sous divers angles. C'est assez humoristique. Voilà. Donc ça, c'est dans un lieu magnifique, hein, que beaucoup de Montpelliérains connaissent. Et c'est une occasion supplémentaire de s'y rendre parce que c'est pas si évident, en fait, d'y rentrer puisque c'est un lieu qui est privé aussi en partie. Oui. Donc c'est une occasion de pouvoir
Parce qu'il y a le lieu lui-même, son espèce d'hôtel particulier, c'est bon, assez beau. Ouais. Et puis bien sûr les activités autour de la culture allemande.
Voilà. Ouais, ouais.
Autre beau lieu, l'Orangerie du Jardin des Plantes. Quand on connaît le Jardin des Plantes, qui voit-on là? Qu'est-ce que Yann Dathessen nous montre?
Alors Yann Dathessen nous parle de peuples du Grand Nord qui, comme beaucoup de peuples ailleurs, ont été victimes d'une modernisation assez violente, assez effrénée, d'une attaque sur leur mode de vie, mode culturel, sur leur langue. Et on est dans une période où, après des années de destruction, on commence à reprendre en compte la nécessité pour ces gens de retrouver un lien avec leurs identités anciennes. Et c'est un beau travail qui est dans ce lieu qui est magnifique aussi, hein.
Alors, on poursuit ce périple dans Montpellier. Nous, on va à la Faculté des Sciences, place Eugène Bataillon, pour voir un travail aussi intéressant sous le nom de « Bruit rose ».
Oui. Alors, la Faculté des Sciences, donc, ne pas y aller le week-end, hein, on peut le comprendre. Donc, le reste du temps, c'est ouvert du matin au soir, aux heures des cours, c'est-à-dire très largement ouvert. C'est dans le grand hall, le magnifique hall de la faculté. Et c'est un travail qui a un bel intérêt photographique déjà, mais qui est aussi un support pour des ateliers d'écriture. C'est cette chose un peu étrange qu'on a montée avec la Fac de Sciences.
Je dis pas ça, que ce sont des étudiants en sciences. Qui ont rejoint un atelier d'écriture, ce qui montre la spécificité et l'intérêt de cette démarche.
Sous l'impulsion de Sonia Chalbi, hein, qui anime des ateliers d'écriture et qui est prof là-bas. Et donc la série photo de Chloé Aran sert de déclencheur à l'écriture et ça produit des choses qui sont très intéressantes.
Alors, quatrième expo dans le volet sélection parallèle, ça se passe à Pierre-Vive, vraiment la grande médiathèque et centre du département, là, avenue rue du professeur Blayac. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller voir en allant faire un tour là-bas?
Alors, Pierre-Vive, qui est donc un peu plus loin, là aussi, faire un peu attention aux horaires d'ouverture, parce que c'est pas...
10h-19h du mardi au samedi.
Voilà, donc comme on sait un peu loin, on fait un peu attention. Enfin, c'est un peu loin pour les gens du centre-ville, pour les gens de la Mosson ou de Petit Bar, c'est à côté, c'est aussi le but. Donc, on y voit le travail d'une photographe allemande, donc en fin de compte, au moins 3 Allemands cette année dans la programmation. Et donc sur un sujet un peu plus grave, puisqu'il s'agit de la façon dont se transmet dans les familles le passé de la Seconde Guerre mondiale.
En Allemagne, ce qui n'est pas rien.
Voilà, c'est pas anodin. Et la façon dont ces récits personnels, parfois intimes, parfois difficiles, cohabitent avec les récits collectifs, avec l'histoire telle qu'elle est racontée par l'historiographie officielle. Donc voilà, c'est une jeune femme qui a été confrontée à ça directement par le biais de son grand-père, qui était pas du bon côté, comme de nombreux Allemands, à ce moment-là, et donc qui essaye de faire avec cette histoire compliquée.
Elle s'appelle, je suis réservé sur la prononciation, Antine Carla Isner.
Voilà.
C'est très bien. Alors, à ces expositions, il y en a 4 autres, dites hors les murs, dans des lieux différents qu'on voit également. Allez voir brièvement. Le premier, c'est le mur rouge. Alors, le mur rouge, ça n'est pas rien.
C'est notre
pour les photographies et pour l'association Grande Image, c'est là, c'est votre base.
C'est notre lieu.
C'est 9 rue Joachim Colbert. Et alors, là aussi, qui voit-on, plutôt qui fait-on?
Alors, ça, c'est une expo qui est en lien direct avec le fait qu'on est sur le bicentenaire de la photographie, sur 2026 et 2027. Et donc, on montre dans ce lieu un panorama très complet, très bien réalisé. Et je le dis d'autant plus que je n'ai pas du tout participé à sa réalisation. Ça a été fait avec, par Jean-Michel Verdan, notamment, du photoclub Objectif Image qui partage les locaux avec nous. Et donc c'est une collaboration très fructueuse qui permet de voir le chemin depuis la chambre dont une a été reconstituée par un membre du photoclub, donc la chambre photographique, jusqu'au numérique, avec aussi un regard sur l'évolution des photoclubs, de la presse photo, des supports photo,
tout l'environnement de la création de la photo.
Voilà,
c'est ça,
voilà. Avec beaucoup de boîtiers entier. Enfin, ça, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens qui ont fait de la photo sous ces différents aspects depuis longtemps ou pas, même les jeunes, parce qu'il y a des choses qui peuvent apparaître très très archaïques et lointaines et qui pourtant ne sont pas si vieilles que ça. Ouais.
Très bien. Alors on continue à se promener dans Montpellier, on va à la galerie Upside Town, 4 rue Fournarier, qui montre le travail d'Olivier Martel.
Alors oui, Olivier Martel, c'est un photographe de la région, hein, mais je crois qu'il est basé à Montpellier, qui fait de très belles images de paysages, et là, en l'occurrence, c'est le Grand Canyon du Colorado.
Un lieu mythique, donc voilà, maintes fois photographié ou filmé.
Voilà, un lieu très épique, et qui est photographié avec ses angles, sa personnalité, de façon assez radicale.
Alors on quitte, bon, on va pas très loin, on va un peu plus loin, donc on va rue La Canale, au bar à photo, même chose, la présentation d'un travail qui mérite d'être montré.
Oui, un travail, alors c'est ce lieu extrêmement sympathique, hein, où il y a toujours une vie autour de la photographie sous plein de formes différentes, et là c'est un travail sur l'Estonie de Madame Berquière.
Lucie Berquière. Très bien. Et enfin, dernière étape, ACBNCO. Bon, c'est un centre de formation à l'interprétariat, hein, grosso modo. Donc, c'est une école, en fait. Hein. Oui. C'est place de Thessalie. Et on voit quelque chose sous l'intitulé « En apesanteur ».
Voilà. Alors là, il s'agit surtout d'un genre d'échantillonnage de ce qui est proposé aux boutographies, avec une thématique voilà qui a permis de cibler une série de photographies
un choix comme ça là, pour faire lien autour de ce mot apesanteur,
c'est visible de l'extérieur puisque ce sont des images qui sont collées sur les vitrines et qui sont donc visibles en permanence du coup même la nuit.
Alors, on en vient maintenant au pavillon populaire, donc 8 accrochages et 11 projections. Je vous rappelle qu'il y a ces deux formules pour découvrir un grand nombre d'images, choisies parmi les 500 dossiers que le jury a examinés. Jury présidé par Pauline Capla, qui conduit à Bruxelles l'Enfant Sauvage, l'espace de création et d'exposition dédié à la photo contemporaine. Outre vous-même à ce jury, Florent Basiletti, cofondateur de la Cabine avec un K. Alors, ces 500 dossiers, stabilité du nombre de candidats, me disiez-vous, mais ça montre quand même un intérêt, une curiosité, une envie d'un grand nombre de photographes de venir montrer leur travail à Montpellier, quoi. Comment vous l'analysez, ce phénomène, pour le coup, assez massif?
Oui, c'est, on en est chaque année ravis, un peu surpris, mais ravis. Surpris en même temps, à moitié seulement, parce que c'est vrai que quand on propose un lieu d'expo comme le pavillon populaire, ça suscite de l'engouement. Quand on propose un accompagnement des expos comme on arrive à le faire avec 25 ans d'expérience et beaucoup d'énergie bénévole, mais qui s'est professionnalisée au fil des années, ça se sait, ça finit par se savoir dans le monde photo, et donc ça génère des envies d'être là sur cet événement au mois de mai. En plus, c'est Montpellier, c'est le sud, c'est beaucoup de critères qui sont tout à fait tentants.
Voilà, l'attractivité est au rendez-vous. Alors, bon, je sais combien que c'est difficile, mais est-ce que vous pouvez nous dire, pour cette édition-là, 2026, quelles sont les tendances qui apparaissent dans la photographie européenne, puisque je le rappelle, un grand nombre de ces photographies, de ces photographes, viennent d'un certain nombre de pays d'Europe. Vous parliez de l'Allemagne, mais c'est aussi le cas d'autres pays. Alors, est-ce qu'on peut déceler, je dirais, quelques lignes de force, même si elles ne traduisent pas à elles seules la diversité de ce qui est montré?
Oui, bien sûr, c'est un échantillonnage relativement réduit, mais qui est quand même prélevé dans vraiment un corpus de photos très contemporaines, donc ça a du sens aussi quant à ce qu'elle devient, cette photo-là. Et ce qu'on peut voir, c'est au fil des années, les projets, l'investissement dans les projets qui devient de plus en plus profond, long, c'est-à-dire des travaux qui sont vraiment construits sur la longue durée, avec des phases de préparation de plus en plus élaborées.
Donc un travail qui dure plusieurs années.
Oui, c'est souvent des travaux qui ont duré un an, deux ans, trois ans, pas forcément en continuité, mais avec un temps conséquent mis à rencontrer les gens, à les mettre en confiance, à rentrer dans les problématiques, et ce qui permet d'aller assez loin justement dans des questions qui peuvent être extrêmement délicates extrêmement complexe, voire intime, et de pouvoir construire ça. Et à côté de ces démarches longues, on a aussi de plus en plus une présence du texte, de l'écriture qui est de plus en plus assumée. Alors c'est une façon, je pense, de consolider aussi l'apport de l'image elle-même, et peut-être aussi de légitimer les images dans un moment où on les met de plus en plus en cause, et parfois à raison, parce que les manipulations deviennent aussi massives. Et donc c'est une façon, je pense, d'étayer le travail par de la parole.
Ce ne sont pas de simples légendes, ce sont des textes.
Oui, ça va au-delà, c'est des recueils de témoignages, c'est des contextualisations historiques, sociologiques, qui sont de plus en plus étayées. Il faut dire qu'aussi que les photographes, souvent, ont d'autres formations que les beaux-arts ou les écoles de photo. Ils sont passés par des cursus d'histoire, de sociologie, d'anthropologie, ou des cursus scientifiques parfois carrément. Et donc on a des gens qui sont extrêmement solides sur plusieurs plans.
Donc il y a la diversité de leurs sources d'inspiration et la traduction, je dirais, de ce phénomène de repère, d'enracinement, dans des expressions qui sont dans la fois visuelles et textuelles.
Oui. Et ce qu'on peut noter aussi, mais ça c'est une tendance longue qui se confirme, c'est l'attention accordée à la mise en espace, à la mise en scène des images. Bon, ça fait un moment qu'on est sorti des alignements, mais là on est de plus en plus...
C'est-à-dire l'exigence dans les accrochages.
Vous avez
face à vous des gens qui savent ce qu'ils veulent, et à vous de faire au mieux, j'imagine, de les satisfaire.
En négociation avec eux. Et là, on a été assez heureux cette année d'entendre encore une fois que les photographes étaient justement heureux de voir qu'il y avait eu un respect de ce qu'ils avaient demandé et négocié avec nous en fonction de l'espace.
Et donc, en fonction de l'espace ou des coûts d'aménagement induits.
Et des coûts, etc. Voilà. Et donc là, en termes de mise en scène, on a des choses assez spectaculaires cette année, hein, entre autres le travail de ce photographe allemand là, qui a eu le Grand Prix, qui pose par exemple un wallpaper sur 20 mètres de long et 3 mètres de haut, sur lesquels il vient poser les images. Et on a aussi de la vidéo, on a aussi du son, on a des installations de plus en plus complexes chaque année.
Voilà, dans le côté, bon, peut-être pas tout à fait d'accord, le côté multimédia que la photo de création utilise de manière de plus en plus conséquente.
Oui, oui, des complémentarités qui permettent d'amener du son, du temps avec la vidéo, du mouvement, donc c'est très riche.
Alors essayons de donner d'autres repères aux auditeurs et auditrices. Alors, est-ce une bonne manière de résumer des photographies de dire que s'y rencontrent, en tout cas s'y juxtaposent, d'une part de la photo documentaire, distincte d'ailleurs du photojournalisme, mon genre personnel préféré, mais qui est animé par la créativité, qui n'est pas du coup du photojournalisme classique, et qui montre la société. Et d'autre part, dans ce panel que les photographies présentent, de la photo de création, vous l'avez évoqué, poussé par la recherche d'expressions inédites qui racontent le monde à sa manière, même si cette démarche est personnelle. Je raconte ce qu'est le monde, en tout cas ma vision du monde. Est-ce que ces deux volets-là, que je résume peut-être un peu caricaturalement, c'est une manière aussi de me présenter aux auditeurs l'éventail de talents et d'expressions que les photographies présentent cette année?
Oui, on peut dire ça. On essaye de balayer des choses qui vont de pratiques plutôt documentaires sur des réalités sociales observables, mais souvent avec un angle aussi personnel, c'est-à-dire qu'il y a aussi une implication personnelle sous une forme ou une autre. Typiquement, c'est le travail de Anouchka Renaud-Heck sur l'Inde, qui raconte qu'à la suite d'une déception amoureuse, elle part en Inde où elle s'intéresse à la
façon... mariage arrangé, oui.
Voilà, la façon dont les mariages se réalisent en Inde, et donc elle associe cette trajectoire personnelle avec un regard sur la façon dont les jeunes gens constituent les couples dans le pays où elle va vivre très largement. Voilà, ça c'est typique. Après, on va avoir des choses qui vont être sur des registres de carrément intimes ou familiaux, hein. C'est le cas de Cristobal Asensio avec l'histoire de ce père décédé, non pas de mort naturelle comme il l'a cru très longtemps, mais d'un suicide, et qui va
dès qu'il l'a appris à 30 ans, quoi.
Voilà. Et qui donc va revenir vers ce drame, et va chercher à faire lien avec ce père, puisque c'est ce qu'il dit de façon un peu testamentaire, il le découvre aussi, et il va chercher à faire lien, donc c'est une histoire qu'on peut connaître dans beaucoup de contextes, hein, de ces rapports familiaux, mais il en profite pour aussi poser la question de qu'est-ce qui fait mémoire, qu'est-ce qui garde mémoire, et qu'est-ce que, par exemple, la photographie garde, élude, élimine, modifie, et dans ce cas précis, qu'est-ce que le fait qu'il était jardinier et qu'il cultive peut générer aussi comme lien à travers les plantes qu'il a plantées, les jardins où il a travaillé. Donc là, on voit comment une question intime, familiale, pose aussi des questions beaucoup plus larges sur qu'est-ce que c'est que la mémoire, la transmission, et que fait la photographie dans ce registre, et est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens, finalement, de faire mémoire ?
Alors, on continue ce petit périple, toujours avec cette idée d'essayer quand même de donner une vue, si ce n'est exhaustive, du moins diverse, de ce propos cette année, photographie. Alors, une autre citation des textes qui ont été produits pour présenter photographie 2026. La photographie a des capacités particulières à toucher tous les publics. Alors, je vous propose donc, ici à ma côté, un petit exercice. Alors, sans être exhaustif, pour donner aux auditrices, auditeurs, quelques indications. Alors, première demande, première proposition, quelques expositions ou projections d'accès aisé, parce que bon, là, pas besoin de codes particuliers, même si d'ailleurs elles sont novatrices. Hein, je peux en citer quelques-unes. Je pense notamment, bon, au travail en partenariat avec l'Association des paralysés de France, ou le travail sur des jeunes délinquants qui me semble d'un accès assez immédiat et aisé.
Oui. Oui, parce que en général, ce qui facilite l'accès, c'est la narration, le fait qu'il y ait un récit. Donc, c'est dans ces cas-là, on a un récit et des contextes sociaux identifiables. Et donc, effectivement, le travail d'Alexandre Bagdasarian nous introduit dans un centre pénitentiaire pour très jeunes gens, mais avec un regard qui est extrêmement aiguisé, hein, qui renouvelle un peu la vision, un peu souvent caricaturale qu'on peut avoir de ces jeunes gens. Donc, on a ça. On a effectivement avec Alexandra Frankiewicz la question du handicap, et ici un couple extrêmement vivant et pourtant bon, accablé d'une certaine façon par des handicaps assez lourds, mais qui vit d'une façon complètement complémentaire, avec chacun ses compétences qu'il met au service de l'autre, et ça donne quelque chose d'extrêmement touchant, hein, qui a été traité par Alexandra Frankiewicz, qui est une photographe locale bien connue et très talentueuse.
Alors, deuxième exercice, donc, un peu à sens inverse, hein, quelques exemples d'une expo, là, qui à première vue demande une petite préparation. Je me suis dit que la lecture de l'article d'une seule page qui leur est consacrée dans le journal peut être une utile introduction, mais deux ou trois exemples aussi, non? D'après tout, de nombre de choses qui sont dans cet aspect très contemporain. Mm-hmm. Que les photographies proposent.
Bon, il y a le travail de Cristóbal Asensio dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, qui demande un temps d'immersion, hein, parce qu'il n'est pas aussi simple que ça au premier abord. Il y a le travail de Hannes Jung, donc le jeune Allemand qui a eu le prix du jury, qui peut apparaître un peu énigmatique, aussi hermétique, mais parce que le sujet en lui-même, justement, demande une forme de mise à distance, de pudeur, hein, puisqu'il s'agit du récit de ces hommes pendant la guerre de Bosnie qui ont été en camp et qui ont subi des violences, dont des violences sexuelles. Et donc, dans ce contexte...
Donc, ils sont sortis de prison avec ces traumatismes-là. Voilà. Que l'ensemble de photos présentées montrent,
voilà.
Quoi.
Voilà, traumatisme dont on peut imaginer.
Des grands formats carrés, dis ça. Hein.
Sur un fond, voilà, avec des grands wallpapers, voilà. Et des images très peu contrastées, extrêmement ouais. Douces, mais qui n'éludent pas la dureté dans les propos qui accompagnent, là aussi, les images, des propos qui sont très simples, très courts, mais avec de nombreux témoignages sur ce qui a été vécu.
Et avec, oui, photos simples, mais propos durs, quoi, en quelque sorte.
Oui, oui. Des photos qui sont très frappantes aussi, qui ne sont pas directement narratives, parce qu'on ne peut pas évidemment documenter ce qui s'est passé directement dans ces camps. Donc là, le challenge pour le photographe, c'est d'arriver à évoquer cette chose-là, extrêmement complexe et tellement difficile à exprimer pour ces hommes qu'il faut...
Oui, parce qu'il y a leur pudeur ou leur réserve qu'on peut comprendre, mais il y a quand même des traces visibles ou apparentes des traumatismes qu'ils ont, voilà, qu'ils ont subis.
Il y a des traces physiques, alors certains dévoilent ces traces sur leur corps, et c'est, on sent très bien cette tension entre dévoilement et pudeur, volonté de dire, mais difficulté à dire. Hein. On est dans une société qui est quand même plutôt masculiniste, marquée par le religieux, par différents côtés, donc c'est pas simple du tout, et d'une certaine façon, il contribue à la libération de la parole avec son travail photographique. Donc c'est une photo performative d'une certaine façon.
Et dans le rapport que le photographe a eu avec ses hommes.
Oui, c'est là que je parle de temps nécessaire en amont, avant de faire la moindre photographie. Il va y avoir toutes ces étapes de mise en confiance, de dialogue, de recherche des bons relais pour aller vers les bonnes personnes. C'est un long travail.
Alors, on va aborder un dernier chapitre, hein, pour vous donner à comprendre qu'une fois ce qu'on peut voir à Botographie, notamment au pavillon populaire. Alors, cette année, bon, les photographies montrent des photos réalisées avec l'aide de l'intelligence artificielle, réalisées par un photographe belge, il y a une petite trentaine, Pascal Sgros. Alors, sous le nom de Cherry Lines, que montre-t-il, Pascal Sgros? Comment a-t-il opéré pour produire des images qui m'ont semblé, bien sûr, réelles, mais qui créent une sorte de trouble, quoi?
Alors Cherry Airlines, alors c'est le nom d'une compagnie aérienne fictive des années 50 qu'il a créée pour jouer d'abord sur l'imagerie qui accompagnait cette poussée de la consommation des années 50-60 et parallèlement de la publicité par l'image, puisque c'est vraiment le moment où ça se déchaîne. Hein. On peut se rappeler d'ailleurs l'expo La vie en Kodak qu'avait montré Gilles Morat il y a quelques années, qui est contemporaine de ce genre de pratique. Sauf que là, c'est fictif.
Des photos qu'on voyait dans les magazines. Hein.
Mais voilà.
Les grands magazines d'images. Hein. Voilà. Là, il faut un Paris Match et autres où on voyait ce genre d'images paradisiaques de voyage en avion.
Dans une période où on se posait pas trop de questions sur les impacts écologiques de ce genre de choses. Donc c'était une époque un peu bénie où on pouvait vanter le luxe et les voyages par avion sans aucune restriction. Et alors là, évidemment, ça crée aussi un décalage avec l'époque. Et puis, c'est cette iconographie là qui est déjà l'imagerie publicitaire, qui est une forme d'artificialisation du monde assez poussée, surtout à cette époque. Et par-dessus cette première artificialisation, il construit de l'image par intelligence artificielle. Donc, on a une superposition de formes de représentation qui aboutissent à quelque chose qui est à la fois extrêmement lisse, joli, beau, rassurant, glamour, confortable, et en même temps c'est tellement beau et confortable que ça en deux, il y a un problème, on ressent comme une
c'est
sorte de
trouble,
malaise.
Le trouble dont je parlais, quoi, que j'ai perçu. C'est presque trop bien, on voit bien quelque chose qui cloche.
Voilà, c'est trop beau.
Et on ne voit pas d'ailleurs ce qui cloche.
On le voit pas bien, mais c'est quelque part de l'ordre de la pureté qui est gênante, parce qu'on sait bien que le monde, malgré tout, il n'est pas comme ça, mais il y a ce désir de ce monde-là. Et donc, on est dans cette ambivalence, on a envie de ce monde-là, on sait qu'il n'existe pas, et on a envie de se faire croire qu'il existe. Donc, il joue avec tout ça.
Voilà. Alors, il faut aller voir. Alors, dernière question, je vous prierai d'y répondre brièvement, donc, en élargissant la vision. Que pouvez-vous nous dire de ce qu'aujourd'hui l'utilisation de l'IA par les photographes, laissant de côté les autres expressions culturelles ou personnelles? Est-ce que c'est, il y a une espèce de refus de céder la place à cet outil, ou un début d'engouement, un intérêt sur cette nouvelle outil qui, me semble-t-il, vous allez nous le dire, est d'un autre enjeu que l'appropriation des outils numériques que les photographes pratiquent depuis de nombreuses années.
Mmh. Alors le numérique, il était déjà présent, on le sait, sous diverses formes, et dans l'expo du pavillon, on voit chez Cristobal Asensio des artefacts numériques, mais c'est vrai que le passage à l'IA, il y a une forme de rupture quand même dans cette continuité de l'évolution des techniques numériques, et en fait ce qui pose question pour les photographes, c'est, et pour des gens qui sont avant tout des artistes, donc c'est la fonction, le projet, l'intention, c'est que l'IA par définition, elle a une tendance à fortement niveler.
Et c'est la normalisation généralisée.
Voilà, c'est un outil qui normalise. Donc, d'une certaine façon, elle a une façon, elle s'oppose à ce qui est le projet d'un artiste, à savoir d'aller là où c'est moins clair, là où c'est moins confortable, là où c'est questionnant, là où on veut justement sortir du sens commun, sortir de tout ce qui nivelle finalement les représentations et les jugements. Donc quand ces artistes photographes, comme Pascal Sgros ou d'autres, viennent sur ce terrain, en général c'est pour dévoyer justement, pour mettre le doigt là où ça fait mal quant à ce que produit l'intelligence artificielle. Ils sont les premiers à ne pas appeler ça de la photographie.
Voilà, il y a un photographe. Une production d'image, en voilà. Tout cas.
Quelqu'un comme Boris Eldaxen, qui est un photographe allemand qui a beaucoup réfléchi sur cette question, on lui a proposé qu'on appelle ça de la promptographie.
Oui. Alors le prompt, je rappelle, c'est la commande qu'on fait au système. On a une demande. Écrivez-moi la synthèse de boutographie, commande, puis voilà, qu'est-ce que ça donne.
Voilà. Il a remis au premier plan l'idée que c'est d'abord une commande, une commande écrite.
D'accord, et c'est là. La spécification de la commande du pont qui est décisive. Voilà. On s'arrêtera là, mais on en reparlera parce que bien sûr c'est un champ nouveau, à la fois pour la photographie et pour l'intérêt que les gens portent aux nouvelles formes photographiques. Je vous remercie, Christian Makota.
Merci à vous.
À bientôt et chers auditeurs, chers auditrices, à la prochaine.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saroc.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, un pur jus.
Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.